Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce dimanche dans votre émission Le QG de l'actu, votre émission du décryptage qui revient aujourd'hui après justement la célébration de l'Aïd el-Fitr. Nous l'avons dit, l'habitude est plus solide que la corde et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui pour en tout cas essayer d'échanger avec nos différents invités l'actualité, surtout les actualités qui ont dominé tout au long de la semaine pour ce énième numéro de votre émission. Deux thématiques seront débattues, à savoir débrayage dans les services à la veille de fête analyse. Oui, nous l'avons constaté, c'est un constat malheureusement amer que nous faisons. À la veille des fêtes, les services publics, mais également privés, nous nous rendons compte qu'en tout cas, l'affluence est très rare dans ces services, bien que ces jours-là ne soient pas chômés. Qu'est-ce qui peut bien expliquer justement ce débrayage dans les services à la veille des fêtes, mais même après la veille, même après la fête, c'est généralement le même constat qui se dégage. Qu'est-ce qui peut bien expliquer justement cet état de fait? Ce serait donc dans cette émission. Deuxième sujet de ce débat, nous allons nous intéresser à cette décision critique mais également controverse de la commission d'appel de la CAF. Vous le savez, justement, la commission d'appel a désigné le Maroc comme étant le vainqueur de la CAN 2025. Laquelle CAN s'est déroulée justement du côté de Rabat, la finale qui s'est jouée. Justement, cette image que vous voyez, l'équipe marocaine que vous voyez ici en image, voilà, qui a été justement déclarée vainqueur de cette édition au détriment du Sénégal. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre justement de cette décision de la CAF? Ce serait dans cette émission et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Badi Aïdara. Il est statisticien, il est également analyste politique mais également universitaire. Monsieur Aïdara, bonsoir.
Bonsoir, merci pour l'invitation. Un plaisir d'être là. Merci aux co-débatteurs, merci aux techniciens de la chaîne.
Merci, Chérif, d'avoir accepté notre invitation. Deuxième invité de ce débat, Badou Aïdara. Badou Sidi Kouba, je disais, voilà, ce sont des noms qui sont tellement proches que souvent nous avons du mal à les distinguer de toutes les façons. Certainement qu'il deviendra aussi un shérif. On le souhaite aussi. Hein,
Badou. Il est content quand même, s'il n'est pas shérif.
Ah, ben vous êtes content, donc vous faites partie aussi de la famille shérifienne. Voilà, donc bienvenue à vous, chers journalistes.
Omar, je profite de votre plateau pour saluer mes co-débatteurs. Saluer l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur Djoliba et clin d'œil à l'équipe technique de Djoliba qui fait un travail merveilleux. Et je profite de votre plateau aussi pour souhaiter bon Ramadan à l'ensemble de la communauté musulmane. Si je dis communauté musulmane, il y a la Ouma islamique, il y a l'organisation de la coopération islamique, il y a le Haut Conseil islamique, etc., etc. Et que vraiment le Ramadan qui vient de se passer soit un Ramadan de paix, de concorde et que ce soit le début du retour de la paix et définitif au Mali, conformément à l'observateur qui a été mis en place par le président de la transition, parce que dans sa vision, il a souhaité que dorénavant le Mali soit un havre de paix où chacun pourra vivre en toute, sans crainte, et dans la quiétude, dans la sécurité, pour pouvoir jouir des richesses du pays.
Oui, c'est tout ce que nous souhaitons en tout cas pour ce pays. Merci à vous, M. Badou Sidi Kouba, voilà, pour en tout cas ses voeux à l'endroit en tout cas des fidèles à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Fitr. Troisième invité de ce débat, toujours fidèle au poste avec en tout cas ses bouts de papier, toujours entre les mains, vous l'aurez compris, il s'agit de M. Abdallah Yattara, il est consultant formateur. M. Yattara, bonsoir. Bonsoir. Décidement. Hein.
Décidement. Merci bien, M. Traoré, pour l'invitation. Et salut à mes co-débatteurs et salut à tous ceux qui sont maintenant en train de regarder Djoliba TV et écouter Djoliba Radio aussi, je crois.
C'est bien
et
ça.
C'est bien ça. Et puis à tous les travailleurs de Djoliba.
Merci.
Merci. Très bonne émission à nous tous.
Merci beaucoup, M. Abdallah Yattara. J'y arrive finalement. Alors, Badou Sidi Kouba, il a quand même pris le dessus sur nous. Oui, hein, en tout cas, nous sommes toujours dans la mouvance de la fête de l'Aïd el-Fitr. Vos voeux à l'endroit du peuple malien, M. Abdallah Yattara.
Juste que la paix revienne, et cela sur toute l'étendue du territoire, et que les Maliens puissent se retrouver unis avec un seul idéal. Et pardonnons-nous. Et en ce jour spécial, j'ai vraiment une forte pensée pour mon camarade, mon ami, M. Issou Cissokho, qui pour la première fois fait un défaut de sa famille et souhaite de tout cœur que, Inch'Allah, l'aide El-Kibir, l'aide El-Fitr, Kébir qui vient, la fête de Tabaski, puisse vraiment le retrouver dans sa famille.
En tout cas, merci, merci pour ces vœux. Et voilà, c'est tout ce que nous souhaitons également pour le confrère Youssoufa Cissokho Badi Aïdara, vos vœux à l'endroit du peuple malien.
Ben, déjà, de la communauté musulmane, on remercie Dieu, Allah, on lui rend grâce de nous avoir permis de voir ce Ramadan, surtout en bonne santé, quand on pense à nos malades qui sont dans les hôpitaux, quand on pense aux personnes qui ont de longues souffrances, et surtout, je finirai par ceux qui nous ont devancés de l'autre côté. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'Allah nous pardonne tous et que ce Ramadan nous sert à nous poser des questions sur nos propres comportements, parce que le fruit de la société, c'est nos comportements. Et s'il y a des comportements déviants dans nos sociétés, Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup, on en parle à longueur d'émission, c'est que nous ne faisons pas nos introspections de manière individuelle, chacun à son niveau. Et peut-être c'est ce qui peut donner l'impression qu'on est dans l'éternel recommencement.
D'accord. Merci donc à vous également, M. Badi Haïdara, pour ses voeux à l'endroit, en tout cas, du peuple malien. À la suite de toutes ces voix, nous nous joignons aussi à ces voix pour souhaiter à tous les Maliens d'ici et d'ailleurs nos voeux de bonheur, de santé, de prospérité, surtout dans un Mali apaisé et réconcilié. En tout cas, une pensée pieuse hein, à toutes ces femmes, ces hommes de Djoliba TV, ces jeunes gens qui sont vraiment au four et au moulin en longueur de journée afin de vous donner la bonne information, l'information plurielle, l'information crédible. Et voilà, donc gros clin d'œil à l'équipe technique hein, qui est également au four au moulin. Du lundi au dimanche, ils sont là pour en tout cas s'assurer que tout se passe bien dans les conditions souvent, en tout cas pas faciles. Alors, mais bon, c'est une passion, c'est vraiment un sacerdoce. Nous avons voulu ainsi et nous avons fait le serment en tout cas de continuer à informer les Maliens. Quelles que soient cela, voilà, quelles que soient les conditions. Et donc, c'est ça aussi, être un journaliste. Merci en tout cas à vous et nous souhaitons à toutes et à tous un très bon début de semaine. Ceci étant, nous allons rentrer justement dans le vif du sujet. Nous l'avons dit, du brayage dans les services à la veille des fêtes, c'est malheureusement devenu, on va dire ainsi, une habitude chez les Maliens. Nous allons dire une très mauvaise habitude d'ailleurs. Nous savons très bien que la fête, c'était le jeudi, pas pratiquement le mercredi. Beaucoup de services, nous avons constaté, certains se sont affairés à immoler les bœufs, alors que ce n'était pas du tout un jour justement férié. Qu'est-ce qui peut bien expliquer en tout cas ce tout à fait, Badou Aïdara, nous allons commencer, Badou Sidi Koba, nous allons commencer par vous. Oui, ce constat, il est là et ça perdure, Badou. Qu'est-ce qu'il faut?
Oui, c'est triste, le constat, il est amer. C'est vrai que le Ramadan et le mois de Carême sont des moments sacrés, des moments de communion pour le monde musulman. C'est une réalité. Et effectivement, comme vous l'avez dit, avant même qu'on ne chasse le jour de la fête, les bœufs ont été égorgés un peu partout, comme si on savait déjà que la fête allait être célébrée le jeudi. Mais il faudrait rappeler que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et on a amené le système de pont. Si le jeudi est chômé, généralement le vendredi est chômé. Donc c'est un système qui a perdu. Quand vous faites la comptabilité du nombre de jours chômés par an et vous faites la comptabilité du manque à gagner, vous vous rendez compte que c'est une perte énorme pour l'État. Maintenant, l'État aussi a procédé à des innovations. Par exemple, l'Aïd el-Fitr, avant, ce n'était pas fêté, mais aujourd'hui, c'est fêté. Donc, on a essayé de mettre en place un système pour qu'il y ait une harmonie entre les célébrations des fêtes chrétiennes et les célébrations des fêtes musulmanes. Donc, c'est ce qui explique souvent certains jours fériés. Mais malgré tout, moi, je dirais tout simplement que le nombre de jours fériés par an, c'est trop par rapport à la situation économique du pays. Parce que si c'est des pertes que la population a réalisées, c'est quand même très grave. Ça constitue également un frein souvent à la population. Souvent, les jours sont chômés alors que la population n'a même pas ça en tête. Donc, ça crée des problèmes. C'est pour ça qu'il y a des embouteillages souvent dans les banques. Et souvent, vous avez besoin de documents administratifs dans les tribunaux, bien dans les préfets et les sous-préfectures. Vous partez, on vous dit, ah, aujourd'hui c'est chômé. Vous voyez que ça crée énormément de problèmes. Donc, nous, on aura souhaité qu'on chôme les jours, mais qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait pas un grand décalage. Par exemple, le lundi, c'était chômé. Maintenant, le mardi, le travail a repris. Le mercredi, nous avons égorgé nos buts. Le jeudi, vendredi, aujourd'hui, c'est samedi, demain, demain. Ce n'est que le lundi que le travail va reprendre. Vous voyez que c'est le manque à gagner énorme et ça pénalise certains.
Justement, ça pénalise certains parce que nous avons quand même dit, vous l'avez rappelé, effectivement, le lundi était chômé car ça a coïncidé avec justement la nuit du destin. Oui, le mardi, on a travaillé, le mercredi, pratiquement, c'était généralement le service minimum, malheureusement, dans les services étatiques, mais également même privés. Oui, Badi, qu'est-ce que l'on peut retenir de cette situation aujourd'hui qui est devenue pratiquement une habitude, malheureusement, faut-il le dire, chez le Malien?
Bon, j'aimerais revenir sur le mot débrayage. Il ne convient pas d'appeler cela réellement un débrayage parce que, de manière classique, pour ceux qui nous écoutent, un débrayage, c'est quand des salariés abandonnent leur poste de travail pour des revendications en général liées à leurs intérêts ou leurs intérêts de classe ou de la profession en général.
En toute cause, le débrayage, c'est quand même la cessation, c'est l'arrêt de travail.
Là, on peut parler d'absentéisme. On peut pas parler d'abandon de poste parce que ça se constate quand on abandonne son poste de manière répétée, mais on peut parler de manière générale d'absentéisme. Écoutez, moi, je vais prendre le contre-pied de ce que mon co-débatteur vient de dire. On a là les symptômes d'un pays dont le corpus de texte n'est pas en adéquation avec la nature sociologique, anthropologique de nos populations. Regardez le cas de ce qu'on appelle communément ici, c'est le bar. Le phénomène s'accentue davantage. Pourquoi? Parce qu'en général, il est d'usage social, justement, que même si, entre guillemets, c'est le fitini, tu ne pars pas voir la grande famille, il est de temps que les gens se réunissent, c'est le bar. Donc, les temps de trajet se rajoutent dessus, ça accélère. C'est les réalités sociologiques. Voulez-vous qu'on arrête de se rencontrer? Pourquoi ne pas élargir les plages de jours chômés de ces fêtes-là? Quitte à réduire, si nécessaire, et encore je ne partage pas leur avis là-dessus sur la question économique, si nécessaire, réduire d'autres jours fériés, mais pour certaines fêtes, qu'est-ce que chrétiennes, musulmanes, tout le monde aura sa récompense à ce niveau, d'élargir pour s'habituer aux pratiques sociales. Les lois doivent refléter nos réalités. Les grandes fêtes, les gens voyagent à l'avance. Donc, en fonction des cars disponibles, de là où tu dois aller, les gens laissent le poste de travail, ils s'en vont. Ça veut dire que la réalité sociologique va s'appliquer. Et si vos textes ne sont pas en adéquation avec cette réalité va frapper ces textes-là et ces textes-là vont s'affaisser devant cette réalité. C'est une analyse que je vous donne pour prendre de la hauteur et dire quoi ? Qu'il y ait des jours fériés, plus beaucoup, pas beaucoup, etc. Je vais vous dire, la question des jours fériés, là, il ne faut pas l'exagérer au Mali en termes de perte et de réalité économique. Je vais le dire pourquoi. J'ai eu à faire des études sur le secteur informel et ses pratiques. La plupart des acteurs de l'informel, selon leur sociologie, selon leur culture, d'où ils viennent, ils choisissent les jours où, parmi la panoplie de jours fériés, il y a des jours où eux, ils ne travaillent pas, le reste, ils travaillent. Peu importe si les fonctionnaires sont là, ils ne sont pas là. Je vais prendre quelques exemples. Beaucoup de grands commerçants, même de commerçants tout court au marché, à part les fêtes, ils travaillent. J'en connais même qui travaillent. Le Latul Kadri qui avait été fait là, il y en a qui travaillent. Donc, il ne faut pas exagérer la portée. D'accord. Ça concerne l'emploi formel en général. Okay. Ça concerne vraiment l'emploi formel. Et encore, dans l'emploi formel, il y a des contrats mal formalisés. Et aussi, ils ne respectent pas. Donc, il ne faut pas exagérer l'aspect économique. Statistiquement, c'est assez réduit.
Non,
on constate même que l'activité s'arrête.
Donc, vous pensez que le fait que les gens s'abstentent...
Le besoin est là.
Mais quel besoin? Est-ce que le jour de la fête ne suffit pas pour en tout cas saluer les parents, pour
parler à ses occupations?
Est-ce qu'il faut enregistrer là aussi, M. Haïdara?
Dans ce cas, pourquoi le lendemain de la fête est férié? Vous voudrez qu'on fête le même jour toute la journée à se réunir en famille et le lendemain aller travailler?
Mais est-ce là qui travaille? Est-ce là
la fête?
Mais Haïdara, est-ce là vous qui travaillez le jour de la fête?
Moi, je vais vous dire, je suis pour les grandes fêtes musulmanes, je suis pour 3 jours de jours fériés. systématiquement.
Quel texte l'a dit? Non, je suis pour.
C'est d'accord. Une proposition que je fais.
D'accord. Mais nous, on s'en tient au texte. C'est la raison pour laquelle nous avons dit de vrai dans le service.
Si d'autres confessions veulent bénéficier parce qu'il y a une grande communauté, par exemple, de chrétiens qui est au centre du pays, sang et autres, vers les Bobos, certains Dogons aussi, s'ils doivent aller voir leur famille pour ces fêtes-là, il faut disposer. Nous qui avons souvent des personnels qui nous aident à la maison pour certaines tâches, pour la sécurité, les gardiens et autres, beaucoup sont chrétiens, mais quand arrive leur fête, c'est Noël seulement qui est fêté, mais souvent on leur donne 3 à 4 jours. Mais pourquoi la réalité ne se conforme pas à ça? Parce que si la réalité se conforme, celui qui est là, a la bonne volonté de s'entendre avec la personne et de lui laisser ce temps d'aller communier avec les siens,
d'accord.
Et on ne peut pas empêcher, on peut pas le refuser à quelqu'un parce que si le texte le fait, ça devient un droit.
D'accord.
Donc, ma position est claire sur ce sujet.
On revient là-dessus.
On doit fêter, on a besoin de temps pour fêter, pour se rencontrer.
D'accord.
Ça a un gain économique.
Mais conformément aux lois et aux textes établis,
monsieur Aydara. Il faut que les textes, on la fasse évoluer.
Très bien. Alors, je vous fais réagir rapidement. Oui, monsieur. Yatara, vous venez d'écouter les deux camps. Hein? Voilà. Apparemment, le tiraillement a commencé. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette question, notamment au débrayage, même s'il ne partage pas même sa dignité de débrayage?
Je ne partage pas les deux visions.
D'accord.
Okay. Mais d'abord, je lui donne une raison par rapport effectivement au débrayage. Effectivement, on dit que le débrayage est légal s'il respecte un cadre réglementaire, un préavis et que ce soit aussi non politique. Effectivement, il a tout à fait raison par rapport à ça. Mais seulement que moi, j'accuse un peu les centrales syndicales, pas aussi les autorités, parce qu'une centrale syndicale n'a pas seulement vocation à formuler des revendications. Et une centrale syndicale aussi a vocation à éduquer, à veiller aussi par rapport au bon fonctionnement des lieux de travail. Vous savez, c'est juste la non-application des règles, de certains articles du code de travail. Si l'État avait tapé du poing sur la table en appliquant cet article qui dit qu'en cas d'absentéisme non justifié, il faut couper du salaire 1/30 de la rémunération mensuelle. Comprenez ? À un certain niveau, il faut appliquer les textes.
Ah bon ?
Oui, il faut appliquer les textes.
Pour la fête ?
Oui, même pour la fête. Non, des jours sont chemins pour la fête. Le jour de la fête, précisément, au-delà. Peut-être la loi qui dit que effectivement, quand un jour férié tombe sur un jour ouvrable, je crois...
Le jour ouvrable doit être chômé.
On doit même revoir ça.
D'accord.
Pour un pays en voie de développement, on doit même revoir ça.
Mais tout ça c'est quand même cadré. C'est déjà
un phénomène qui a perduré il y a très longtemps.
D'accord.
D'abord, c'était même au niveau des établissements scolaires. Je vous assure, une semaine, pratiquement avant la fête, les élèves et étudiants débrayaient, laissaient les cours.
Déjà, certaines écoles sont même en congé de Pâques.
Exactement, vous comprenez.
Malheureusement.
Vous comprenez. Complètement, ils vidaient complètement les établissements scolaires. Et les autorités scolaires sont là, elles ne peuvent rien. Et souvent même, il y a même ces responsables scolaires qui disent souvent aux filles, bon, après demain c'est la fille, les filles peuvent rester à la maison pour se faire tresser. Voilà, ils disent comme ça. Et souvent les filles restent à la maison. Vous comprenez? Mais le problème, c'est à quel niveau? C'est au niveau des responsables. J'ai fait beaucoup de lieux de travail. Tu sais, à 48 heures avant la fête, ils ne viennent même pas au bureau. Parce que tous ils disent qu'ils vont être embêtés par ceux qui viennent chercher de l'argent. Et ça, c'est la réalité. C'est gênant au niveau des responsables sociaux. Je vous dis, 48 heures avant, je connais beaucoup de ces lieux de travail. Ou 48 heures avant, les chefs de service, les directeurs ne viennent même pas au boulot. Ou même s'ils viennent, ils se ferment la porte pour ne même pas avoir accès à ceux qui en ont plus de besoin, qui viennent les solliciter. C'est en réalité ça. Vous comprenez? Mais je dis tout simplement, il va falloir que les centrales syndicales jouent leur rôle par rapport à ça et que l'État applique aussi l'article qui dit qu'en cas d'absence non justifiée, un 1/30 de la rémunération mensuelle doit être
coupée. Mais monsieur Yatara, parlant spécifiquement des cas des fêtes, puisque c'est sur ça, ce côté-là que notre cher ami s'apprésente, qu'est-ce que les textes disent en matière de fêtes? Est-ce qu'il est dit que deux jours après, avant que.
Les techniques sont mieux par rapport à ça. Mais effectivement, quand vous constatez au lendemain, même deux jours après la fête, pratiquement ça ne travaille pas. Ça ne travaille pas. Comprenez, on sortira de congé sans permission.
Pourquoi?
On part au village, deux jours avant on est au village, deux jours après on est toujours au village, et on revient pratiquement, on a une semaine de perdu.
Mais forcément,
il va falloir que l'État joue sa part. Et au coup, si les centrales syndicales, à force de faire des revendications, pensent aussi à ce côté-là.
Balou aussi dit comment?
Ma réaction, c'est quoi? C'est que lundi, la fête du destin, jeudi, la fête du Ramadan. les citoyens n'avaient que le mercredi, peut-être pour aller dans les banques. Lui, il a parlé d'informeurs, de formules. Hier soir, j'ai échangé avec un banquier qui m'a fait un diagnostic sans complaisance de la situation quand il y a les jours fériés. Ça joue énormément sur l'économie. C'est ça la vérité. Je ne suis pas économiste de formation, mais il m'a un peu fait le diagnostic de ce qui se passe. Par exemple, vous prenez les salariés, ceux qui doivent percevoir leur pension, et qu'on leur dise que le lundi, je suis chemin. Et mercredi, je parlais de Deborah, parce que le mercredi, arrêté, les gens ne sont même pas dans les services, parce que je suis journaliste. Je suis parti dans un service, pas pour commander. Je suis parti dans un service pour rencontrer le directeur pour un dossier. On m'a dit que le directeur vient de sortir et qu'il ne viendra plus parce qu'il est parti voir, il est parti vers Falaje pour aller chercher l'herbe là parce qu'ils ont fait une cotisation. Vous voyez ce que ça fait. Donc ça veut dire que le mercredi d'office, c'est pas lui seul. Tout le monde a débré, tout le monde a abandonné son poste. Donc c'est pour tout simplement dire qu'il faut ordonner, il faut organiser les jours fériés. C'est ça la bonne solution. Et moi en tant que journaliste, ce n'est que le vendredi dans l'après-midi que je suis que le lundi est chômé. Et si je devais aller prendre des sous à la banque, comment je vais faire? Parce qu'il y a des cas de maladie, il y a les cas sociaux, il y a beaucoup de cas. C'est pourquoi j'ai dit, je ne suis pas contre les jours fériés, mais il faut ordonner, organiser les jours fériés, faire en sorte que les gens soient informés à temps. Et que pendant les fêtes de Tabaski, là je rejoins un peu, nous nous déplaçons pour aller dans nos familles à l'intérieur du pays. Là également, il faut que l'État prenne des dispositions. Parce que si l'État ne prend pas de dispositions, généralement, certains font 15 jours. Sans aller dans les services. Vous voyez ce que ça fait. Non, c'est vrai, certains font 15 jours. Et vous partez dans certains services, vous ne trouvez que le gardien en train de dormir et le matériel est à côté. Donc tout ça, il faudrait trouver une solution à tout cela. C'est vrai, nous sommes dans un pays en majorité musulman. C'est aussi un pays chrétien. Il y a ceux qui ne sont ni musulmans, ni chrétiens, ceux qu'on appelle les kamites et ceux qui font d'autres pratiques. Donc d'autres pratiques. Mais ce qu'on peut dire, il faut réorganiser les jours chômés, les jours finis. Sinon, réellement, c'est un manque à gagner pour le pays. Je le comprends. Il y a les cas sociaux, socialement parlant, quand on dit qu'il y a la fête de Tabasco, il y a la fête de Ramadan, ou il y a la fête de Pâques, ou bien la fête de Noël, qu'on empêche les gens d'aller fêter, c'est quand même. C'est pas une bonne chose. Mais c'est des fêtes quand même traditionnelles, où la tradition a toujours été respectée. Depuis que nous, on est tout petit.
D'accord.
Noël, Pâques, Ramadan, Tabaski, c'est des fêtes qui ont toujours été célébrées.
D'accord.
Mais il y a eu des ajouts. D'accord. C'est par rapport à ça que je parle. Je ne condamne pas, mais il faudrait qu'on organise, qu'on régule, comme il a dit,
d'accord,
et que les syndicats et le gouvernement reviennent sur certains textes. Parce que quand le jeudi est au chemin, les gens mettent en tête que le vendredi est au chemin. Ils disent que c'est un pont. C'est ça, je n'arrive pas à comprendre ça.
Ça, c'est très clair. Oui, M. Haïdara, la question est toute simple, vraiment, parce que nous n'avons pas vu le texte allant dans ce sens-là qui dit. Voilà que deux jours avant la fête, c'est chômé, deux jours après la fête, c'est chômé. Et quand vous vous déplacez, quand vous vous absentez, puisque vous vous accrochez à ce terme absentéisme, c'est bien déjà, ce n'est pas mauvais en soi. Mais quand vous vous absentez, est-ce que vous pensez à ceux-là aussi qui ont besoin de vos services et qui viennent pour leurs besoins? Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces gens-là?
Vous savez, il faut. Je note quand même que Yattara est plus proche de la position de Badou parce que non seulement il considère que ce n'est pas normal, c'est à réprimer et qu'il faudrait appliquer la loi, il a raison, c'est la loi pour faire des prélèvements.
Mais bien sûr.
Moi, je dis que je remarque qu'aucun d'entre eux leur attention n'a pas été attirée par ce que j'ai dit sur la sociologie et l'anthropologie. Je dis que des fois, des problèmes se posent. Les populations font des comportements qui violent la loi. Il faut apprécier chaque situation, si c'est la loi qui est inadéquate ou c'est des comportements qu'il faut réprimer. Sur certains sujets ici, j'étais plus dur, lui, il était de l'autre côté. Ça dépend de nos sensibilités et de comment on voit l'équation. J'ai dit en l'espèce, nous savons tous que c'est illégal de s'absenter sans raison.
D'accord, là on se comprend sur ce volet-là.
Maintenant, ça, une fois que j'ai dit ça, ça ne m'intéresse pas. Je regarde, les lois-là, c'est pour régir la société. Et à aucun moment, dans leur discours, en gros, ils ont des visions de droite, quoi. La rigueur, moins de jours fériés. Si ça ne tenait qu'à eux, il n'y aurait pas eu de jours fériés. Moi, je ne suis pas de cet avis-là.
D'accord.
Et quitte à supprimer d'autres jours fériés, je peux être d'accord avec eux de remettre à plat certains jours fériés, de les enlever. Mmh. Mais même ça, je ne suis pas totalement d'accord. Pourquoi? Parce que, en fait, il ne faut pas voir les jours fériés où les gens restent à la maison, ils ne font rien. Ça, c'est une... Ça, les gens pensent comme cela parce qu'on n'a pas su donner du contenu à ces moments nationaux-là. Il n'y a pas suffisamment d'animation culturelle, socio-culturelle, pour donner vie à ces moments-là.
D'accord.
Moi, dans ma logique, un jour férié, c'est pour libérer les citoyens de leur pitance quotidienne, pour faire autre chose ensemble. Mais si c'est pour que tout le monde reste à la maison, ça sert à rien. Pour moi, c'est des moments qui sont à prendre en compte dans la construction de la mémoire collective sociale. Mais si c'est juste les gens restent à la maison, ça ne sert à rien. Mais si on veut faire des moments de communion nationale et que les gens sont dans leur pitance, ils auront du mal à participer à ces moments de communion nationale. Et donc, on peut garder le nombre de jours fériés, on peut diminuer, mais la qualité de ce qu'on fait... C'est pour ça que je n'aime même pas le terme jour férié, c'est blanc. Il faut trouver un autre concept, un autre truc pour dire que chacun de ces jours sera différent. Et pas de dire c'est la journée du 26 mars, on fait des trucs par là. Non, 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 des trucs vivants dans tous les quartiers, à tous les niveaux. Mais ça, vous savez, ça ne peut pas s'improviser. Ça ne peut vraiment pas s'improviser. Ça nécessite une politique culturelle, socio-culturelle qui se fait depuis des années, que Modibo avait mis en place, dont Moussa a bénéficié des effets et des résultats, mais après, c'est retombé à l'eau. Et quand on regarde les biennales et tout ce qui se fait avant, on a les larmes aux yeux.
Donc, en gros, vous n'êtes pas contre les absentéismes à la veille des fêtes.
Je m'appelle la loi change.
Mais puisque vous intégrez la loi, ne les utilise pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse?
Mais Yatara a dit d'appliquer la loi. Moi, je suis pour comprendre en compte la sociologie dans les décisions, des décisions juridiques, c'est tout.
D'accord.
Abdelayatara. Je crois que... Ce que je comprends, c'est qu'il veut, en fait, fêter à la manière, je sais pas, déplacer sur un plan sociologique et anthropologique. Je lui dis tout simplement que Maouloud qu'on fête la naissance et le baptême du prophète, et le salut sur lui. On passe toute l'année à fêter aussi Maouloud. D'autres disent, mais Maouloud fête une calonne là, m'a fêté une calonne, alors qu'il y a des jours spécifiques pour ça. Pratiquement, on passe toute l'année à le faire. Et deuxièmement, là où j'ai dit que l'État doit prendre ses responsabilités, c'est que ces mêmes fêtes de Tabaski et de Ramadan, d'autres confessions religieuses les fêtent à leur date. Pas à la date officielle que l'État a dit. Ça aussi, ça paralyse aussi. Donc, on est dans un pays, là. On est dans un pays.
La preuve,
quand l'État dit...
C'est la laïcité.
Non, ça, c'est pas la laïcité.
C'est la laïcité.
Non, ça, c'est pas la laïcité. Je viens. Non, ça, c'est pas la laïcité. Quand l'État déclare que la lune a été aperçue et que la fête, c'est demain, force doit rester à la décision de l'État. C'est un principe.
C'est pas l'État.
On ne doit pas se confondre. C'est pas une question de laïcité. Force doit rester au respect de la question de l'État. L'État ne peut pas décider qu'aujourd'hui, on fête Tabaski, toi tu fêtes au Ramadan, toi tu le fêtes deux ou trois jours après. Parce que toi tu dis que tu n'as pas vu la lune. Et c'est reculant.
Mais ça a été toujours comme ça. Parce que nous avons même vu au Mali que le jeudi,
ça doit pas se faire.
Malheureusement.
Force doit rester à la décision de l'État.
Non,
je vous appris. Non, ça c'est pas la laïcité.
Non,
je vous appris, c'est pas la laïcité. C'est pas la laïcité. Vous n'avez jamais vu que on fête Noël le 25 et que les chrétiens disent que d'autres chrétiens disent qu'on va faire ça le 26 et le 27. On n'a jamais vu ça.
D'accord.
Vous comprenez, sortons de ça.
D'accord.
Il faut doit rester au respect de la décision de l'État.
D'accord.
Voilà.
Badou. Effectivement, sous Modibo, on a été obligé de faire sortir les gens publics. Quand Ibeka a été premier ministre, au moment où il était fort, ils ont été obligés de faire sortir les gens. Mais ce que je veux aussi ajouter à la célébration des fêtes, il y a des phénomènes plus graves qui se passent au Mali. Moi, j'ai l'habitude d'aller dans un service où j'ai trouvé que tout le monde est absent. J'ai dit au vigile, mais qu'est-ce qu'il veut ? Il me dit que, il y a le fils du patron qui doit se marier, tout le monde est parti là-bas. Ça arrive souvent. Ouais, non, mais c'est ça ma tristesse.
Ça, c'est un autre sujet.
Non, mais c'est le même sujet, ça arrive souvent.
Non,
il n'y a pas de sanctions.
Il y a toujours l'absentéisme.
Il n'y a pas de sanctions.
C'est un autre sujet.
Mais les gens sont là, les citoyens sont dans le monde.
C'est un autre sujet.
S'ils ne sont pas là, qu'est-ce qu'on fait?
Si vous voulez faire un sujet sur l'absentéisme dans la fonction publique, on va venir en débat.
C'est ce qui est encore pire. Il y a un autre drame. Il y a un autre drame. Pendant les célébrations de ces mêmes mariages, les célébrations des baptêmes, on coupe nos goudrons. On érige des tentes sur nos goudrons, les gens passent toute la journée. Vous êtes obligé de laisser le goudron dévier pour aller ailleurs. Alors que vous êtes un chef de service, vous êtes un entrepreneur, vous êtes un journaliste, vous êtes un grand professeur comme lui. Vous devez aller à votre lieu de travail à temps réel. Il faudrait faire les détours. Je crois que c'est des pratiques catholiques qui doivent cesser dans ce pays. Nous ne sommes pas contre les jours fériés.
Les maires ont prévu quel espace.
Tout le monde sait que le 22 septembre, c'est chômé. Ah. Et puis tout le monde sait que le 20 janvier, c'est la fête de l'indépendance. Le 20 janvier, c'est la fête de l'armée. Le 19 novembre a été exclu à l'époque. Nous, on célèbre. Ça, c'était sous Moussa. Ça, c'était le 1968, l'année où les militaires ont pris le pouvoir. On ne célèbre plus ça. Donc, c'est pour tout simplement dire que nous ne sommes pas contre les jours fériés. Mais nous sommes contre des jours qui sont inutilement fériés. Et il m'a dit de ne pas de débrayage. Bon, je mets débrayage entre guillemets. C'est que dans les cas de cérémonie de mariage ou de baptême, il faut aller célébrer le baptême du chef ou le mariage de son fils, de son neveu ou de sa fille. Il faut qu'on sorte de ça.
Très bien. Malheureusement, nous ne sommes plus par le temps.
On va. Oui. C'est que pour les fêtes qu'on coupe les goudrons, les rues, généralement, ils partent chercher des autorisations
à la mairie. La mairie autorise. Et le plus souvent, les gens le font. J'ai été témoin de ça plusieurs fois. Voilà. Ils ont demandé et on a été autorisé, M. Alors, bien sûr. Alors, on va aller justement dans le débat pour nous intéresser au second sujet de ce débat, à la savoir désignation du Maroc comme vainqueur de la CAN 2025 au détriment du Sénégal. Nous l'avons quand même vécu. C'était quasiment une situation inédite que le monde du football a connue. Nous nous souvenons tous de ce 18 janvier dernier où les joueurs du Sénégal avaient quitté la pelouse. C'était du côté de Rabat pour en tout cas protester contre un pénalty qui avait été justement accordé à l'équipe marocaine in extremis. Hein, voilà, la fin de pratiquement du temps additionnel. Voilà, et c'est ce qui a justement soulevé la colère des dirigeants, non seulement justement sénégalais, mais également d'une bonne partie de l'équipe nationale du Sénégal. Et nous savons tous la suite. Finalement, l'équipe du Sénégal s'est imposée par le score de 1-0 à l'issue des prolongations. Voilà, deux mois après, une commission d'appel en tout cas de la CAF désigne justement le Maroc comme étant le vainqueur de cette édition 2025, comme le diront les spécialistes du ballon rond, en tout cas sur tapis vert. Je parle en tout cas sous le contrôle du spécialiste, en tout cas qui est aussi membre de la Fédération Malienne de Football, alors laquelle commission s'est justement adossée aux articles 82 et 84 en tout cas du règlement du tournoi de l'AFE. Voilà, qu'est-ce que nous devrons savoir justement de cette décision? Est-ce que le résultat acquis sur le terrain prime sur le résultat du tribunal, M. Haïdara?
Décidément, on est tous Haïdara maintenant.
Le cercle du Ramadan.
Tout à fait. je suis membre de la commission, j'étais membre de la commission centrale éthique de la Fédération Malienne de Football. Et notre mandat a pris fin le 19 avant-hier, hier tout près.
D'accord.
Donc, pour le moment, il n'y a pas eu lieu à prolonger jusqu'à la mise en place d'une nouvelle commission. On attend le retour de la FIFA.
Ex-maire, ex-membre de la commission.
Ouais.
Donc, ça devait trop, hein.
Voilà. Bon, les gens voient la commission, le jury d'appel. Mais entre-temps, dès la fin de la finale, le Maroc avait introduit une plainte pour violation des articles 82 et 84. Donc, mais la commission de discipline avait été d'abord saisie par rapport à ça, mais la commission de discipline a débouté le Maroc par rapport à ça. Mais paradoxalement, la commission de discipline a infligé des sanctions et à la Fédération sénégalaise de football et à l'entraîneur du Sénégal. Mais effectivement, c'est tout à fait normal, le Maroc a fait appel. En ce moment, le dossier vient au niveau du jury d'appel, donc qui a siégé et qui a donné victoire au Maroc. Mais le problème se pose par rapport à beaucoup d'interprétations. Moi, je dirais tout simplement que à la fois que c'est l'arbitre qui a failli et que c'est la commission de discipline qui a failli et la commission, le jury d'appel qui a failli. D'abord, par rapport à la forme, effectivement, le jury d'appel est constitué de 9 membres. Mais exceptionnellement pour cette occasion, 5 seulement ont été convoqués. Les 4 n'ont pas été convoqués ou pas, je ne sais pas, mais il paraît que 5 seulement ont siégé. Et là même, il y a le Djiboutien qui a dit que son nom figurait, mais il dit qu'il n'a pas siégé. Donc on se trouve pratiquement à 4, donc le quorum n'est pas atteint en ce moment. Maintenant, ils ont pris.
La corruption.
Voilà, maintenant, on dit que le Maroc met en avant l'article 82 et 84. C'est là où j'ai dit que l'arbitre a complètement failli. L'article 82 dit quoi? Si une équipe quitte le terrain avant la fin du temps réglementaire sans l'autorisation de l'arbitre, elle est considérée comme ayant abandonné le match et est déclarée perdante. Et c'est pour cela que l'article 84 ne nous intéresse pas. Et c'est sûr que dans l'article 84, il est dit que l'équipe qui enfreint les dispositions des articles 82 que je viens de lire, ou 83 non-présentation, est définitivement exclue de la compétition et perd le match sur un score de 3-0. Donc le Maroc s'appuie sur ces deux articles 82 et 84 pour demander le retrait du titre au Sénégal. Mais les Sénégalais, en fait, s'appuient aussi sur l'article 5 de la CAF cette fois-ci, mais plutôt de l'International Board, qui est aussi une instance de football aussi avec la FIFA, et qui dit qu'il garantit l'autorité de l'arbitre sur le terrain visant à empêcher la modification des résultats une fois le match terminé, sauf cas de corruption avérée ou erreur administrative. D'accord. Pour eux, l'article 5 est là, ça ne doit pas changer. Quand le coup de sifflet final a été retenti, le résultat ne doit plus changer. Mais le Sénégal a oublié que souvent, même en cas de réserve après le match, bien que l'arbitre ait sifflé à la fin du match, souvent les réserves ou des évocations ont été formulées, ça amène à changer le résultat du match.
Mais la question que je pose à ce niveau, M. Yatara, est-ce qu'il y a eu des antécédents à cela?
Oui, c'est ça que je viens.
D'accord.
Et seulement que le Maroc, enfin, le Sénégal aussi oublie qu'en 2017, et lors de la Coupe d'Afrique U17, Sénégal, la Guinée-Conakry et le Cameroun ont joué la finale et étaient qualifiés d'office pour la Coupe du Monde CADIR. Mais malheureusement, un mois après, le Sénégal a formulé des réserves contre les deux joueurs de la Guinée-Conakry, comme quoi ils ont dépassé l'âge de 17 ans. Et la Guinée a été disqualifiée et le Sénégal, troisième de la poule de la Guinée, a accompagné le Cameroun pour la Coupe du Monde. Deuxième cas aussi, c'est qu'en 2016, en 2016, le Sénégal a été battu par l'Afrique du Sud lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, par 1-2. Mais les Sénégalais ont formulé déjà comme quoi le deuxième but sud-africain était un pénalty non justifié.
D'accord.
À l'époque, je vous rappelle que la secrétaire générale de la FIFA, c'était Fatima Samora, qui est une Sénégalaise. Et un an après, on a été obligé de rejouer le même match et le Sénégal a gagné 2-0.
Rejouer le match.
Voilà, voilà. Rejouer le match et le Sénégal a gagné 2-0. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que les Sénégalais, à mon avis, l'arbitre n'a pas joué sa partition. Mais à mon avis, nous sommes aussi en droit du football. Et le Maroc ne fait que prétendre à ses droits. Voyons dans ça, ne mettons pas trop d'émotion. Et les statistiques sont là, mais là où je connais fermement, c'est la composition du jury d'appel.
Mais Monsieur Yatara, en ce cas de figure-là, qu'est-ce qui doit primer? Est-ce que c'est le résultat sur le terrain qui prime ou est-ce que c'est le résultat sur le plan juridique qui prime?
Bon, pour moi, si la composition du jury d'appel avait été normale, j'ai dit bien, c'est la décision du jury d'appel qui s'impose. Mais là encore, cette décision du jury d'appel est suspensive encore, parce qu'il a l'étape du TAS aussi, le tribunal arbitral du sort, et que le Sénégal va forcément saisir pour encore invalider le résultat, la décision du jury d'appel. Donc, ce n'est pas encore totalement fini.
D'accord.
Et jusqu'à passer le fait que le Sénégal a 10 jours pour faire appel pour le TAS.
D'accord.
Maintenant, si le Sénégal fait appel pour le TAS, c'est suspensif de la décision du jury d'appel.
D'accord.
Donc, on attend maintenant la décision finale du TAS. Et là encore, le TAS est obligé de reprendre toute l'instruction à la base.
D'accord.
De ne pas se fier uniquement à la décision du jury d'appel, mais de reprendre l'instruction à zéro.
D'accord. Cela veut dire que nous sommes donc partis pour une longue bataille judiciaire. Admettez hein, qu'on vous appelle aussi Yatara parce que tout le monde a été appelé sur ce plateau Haïdara. Alors, monsieur Haïdara, j'aimerais bien vous savoir maintenant, monsieur Abdoulaye l'a dit tantôt, des sanctions avaient été infligées à certains dirigeants sénégalais. Même une amende avait été justement demandée que la fédération puisse payer. En ce sens, comment se fait-il qu'aujourd'hui, deux mois après la finale, que cette décision tombe? Qu'est-ce que nous devons comprendre?
Je vais me permettre, non pas que je suis un enseignant, revenir une fois de plus sur le mot désignation du Maroc comme vainqueur de la CAN. Ce n'est pas juste.
Qu'est-ce qui est juste?
Non, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que la procédure s'éteigne, le Sénégal demeure le vainqueur de la CAN 2025.
Il y a une décision qui a été rendue, même si elle est attaquable.
Non, c'est comme si tu déclares la
fin
du résultat à la mi-temps.
Mais pour l'heure, admettez que la commission a désigné.
Pour l'heure, c'est le Sénégal.
C'est la décision de la commission, monsieur.
J'explique juridiquement le concept. On ne tire pas une conclusion définitive avant que, tant qu'il y a des voies de recours, on ne donne pas une conclusion définitive. Le Maroc, écoutez bien, le Maroc conteste la Coupe du Sénégal. C'est que le Sénégal l'est officiellement jusqu'à preuve du contraire. Et donc, la procédure commence. Étape 1, étape 2, étape 3. Tant qu'on n'a pas la conclusion finale, c'est le Sénégal qui le demeure. OK ? Donc, nous, notre champion d'Afrique, c'est le Sénégal.
D'accord. Mais admettez comment on conduit désignation pour non, le moment, le Maroc a été désigné, même si cette décision
est Abdallah a expliqué une décision qui sera suspendue par le Sénégal qui va faire un appel au niveau du TAS.
Oui.
Et de toutes les façons, là où je voulais en venir, les cas que Abdallah a donné, les deux cas, j'aimerais revenir là-dessus pour dire qu'ils sont un peu différents de ce cas précis.
D'accord.
Pour le premier cas, des personnes qui ne respectent pas les critères de sélection alors qu'ils ont été dans l'équipe ou sous tapis vert ou sous la feuille de match, ça c'est autre chose. Ce n'est pas du ressort des décisions de l'arbitre. On est d'accord. C'est d'autres organes qui sont censés contrôler ça, d'autres commissions. Deuxième cas aussi, le pénalty. Voyez-vous, la victoire n'a pas été donnée juridiquement. Ils ont dû rejouer le match. Premier élément. Deuxième élément, pour la finale, Abdallah a entièrement raison. Mes informations et mon analyse sur ce dossier, je les tire du journaliste d'investigation Romain Molina. C'est un journaliste d'investigation spécialisé dans les milieux du foot. Ce n'est pas un analyse foot, un technique, mais il analyse les structures, il connaît bien les instances. Il a relevé les mêmes sujets que Abdallah vient de dire sur la commission et de potentielle corruption liée à des présidents qui sont liés à certains membres. C'est pour ça que j'aimerais faire le lien aussi avec l'aspect politique et géopolitique et l'homosexualité, etc. Bon, Romain Molina n'en parle pas, mais il explique bien les implications politiques dans cette affaire pour que cette décision puisse basculer.
D'accord.
Mais la différence fondamentale, là où il a raison, c'est qu'à partir du moment où l'arbitre n'a pas décidé de faire forfait le Sénégal parce qu'ils ont abandon de match, on va appeler ça comme ça, même si ce n'est pas le terme juridique. À partir du moment où l'arbitre n'a pas fait ça et que le match a continué, on ne peut plus revenir sur cette décision. C'est ça que l'IFAB dit dans 5.2. C'est ça que l'IFAB dit. Il faut expliquer l'IFAB, c'est quoi? L'IFAB, c'est elle qui désigne les règles du football. Plusieurs associations, fédérations sont membres de l'IFAB. Donc, c'est elle qui dit comment le foot se fait. Maintenant, au niveau des fédérations et autres, chacun prend aussi des textes à leur niveau, etc. Déjà, il y a une hiérarchie. Donc, à partir du moment où l'arbitre... Et vous savez pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé l'abandon? Parce que le Maroc avait un pénalty. Dans leur tête, ça c'est mon raisonnement, je ne sais pas l'information, c'est mon analyse sur la situation. Et l'arbitre communique avec la CAF, il y a des agents, il y a des représentants. Dans leur entendement, il ne fallait pas arrêter le match et donner le Maroc gagnant. Alors que le Maroc n'a pas mérité ça, n'a pas gagné sur le tapis vert, alors que le Maroc a un pénalty. Donc eux, dans leur tête, le Maroc marque le pénalty, on n'en parle plus de ce sujet. Mais à partir du moment où l'arbitre, là même certaines personnes disent ça a duré 12 minutes, 15 minutes, d'autres disent tout le monde n'a pas quitté le terrain. Je ne sais pas si Sadio Mané avait quitté le terrain aussi.
Il est en déri.
Voilà, donc, mais d'autres disent, mais dans tous les cas, peu importe, il est rentré, il n'est pas rentré. L'arbitre, c'est l'arbitre qui devait constater la victoire 3-0 du Maroc en se basant sur 82-84 lors du match. Mais si l'arbitre n'a pas jugé, il ne s'appelle pas arbitre pour rien, il arbitre. Donc il a sa position. C'est comme le juge prend la jurisprudence en inférant de nouveaux concepts qui ne sont pas dans la loi. Donc il a décidé, il est maître. C'est ça que l'IFAB le dit. Une fois qu'il décide, c'est fini. C'est différent du cas des âges la dernière fois.
Okay.
À la limite, le pénalty, on peut dire que l'arbitre n'a pas fait. Mais en aucun cas, c'est un forfait qui a été constaté. On a dit de recommencer.
Donc, vous pensez que cette décision qui a été rendue par la commission
médiatique
d'appel n'a pas de sens d'aboutir. C'est un non-événement.
C'est du bruit médiatique.
Donc, la décision doit primer sur cette décision, c'est bien ça.
Mais bien sûr, tout le monde a vu, le Sénégal a mérité sa victoire. Les Marocains le savent.
D'accord. Badou, oui, par rapport à justement à cette situation.
Oui, par rapport à cette situation, j'ai vu des Guinéens s'agiter pour dire qu'en 1976, lors de la finale entre la Guinée et le Maroc, les Marocains ont quitté le terrain. Après, les Marocains sont revenus. Et le Maroc a eu sa coupe. Les Guinéens veulent que la Coupe d'Afrique 76 revienne à la Guinée. Vous voyez que la boîte de Pandore a été ouvert. Maintenant, par rapport à la CANMU en tant qu'État, nous avons beaucoup entendu de corruption. Par exemple, au football, même sur le, quand on prend même le football sur le plan mondial,
trop de corruption.
Michel Platini, Blatter qui dirigeait la Fédération internationale de football amateur, Issa Ayatou, on en a parlé. Issa Ayatou, on sait comment il a quitté la CAN, la tête de la CAN. La CAF, la Confédération africaine de football, excusez-moi. Et il y a un malgache qui est venu, Ahmad Ahmad. Qui ne s'y connaissait pas en matière de football parce que Madagascar, je n'ai jamais entendu que Madagascar a participé à une phase finale.
Attention, c'est une notion de football, comme il faut le respecter.
Ah, ok. Après, on a vu Patrick Motsebe, le Sud-Africain qui vient diriger la CAF, mais est-ce que c'est un technicien, est-ce que c'est un spécialiste en la matière? Parce que, apparemment, parce que le football, c'est un sport de masse. C'est un sport de masse. Il y a un système de corruption gangréné qui existe. Il faut mettre fin à cela. Sinon, moi, il y a un supporter marocain que j'ai écouté. Lui, il dit que mais, la sanction devait tomber sur le terrain. Mais c'est après le terrain qu'on vient dire que le Maroc a remporté la Coupe d'Europe. Il dit que c'est quoi ça? Il dit que mais ça, c'est de la cacophonie. Ça n'a plus lieu d'être.
Oui, c'est vrai que l'arbitre même qui avait arbitré ne connaissait pas réellement les règles qui
font. Un arbitre qui faut forcément doit connaître les règles. Un arbitre doit connaître les règles. Donc, lui, il s'est dit que vraiment, c'est de la comédie qu'on vient de jouer. Et de toutes les façons, c'est le Sénégal qui détient la coupe. Est-ce que le Sénégal va délivrer cette coupe comme ça? C'est la question que je me pose. Mais là où je salue la CAF, il faudrait dire quand même qu'historiquement parlant, la CAF a beaucoup contribué à la suite de l'apartheid en Afrique du Sud. Parce que lors de la première compétition de la CAN en 1957, l'Égypte, l'Éthiopie, le Soudan, l'Afrique du Sud devait jouer. Les Sud-Africains ont dit, le régime ségrégationniste avait dit en son temps, il faudrait, et ils ne pourront aligner que des joueurs blancs. La CAF a dit non. Si vous êtes aligné que des joueurs blancs, l'Afrique du Sud ne participera jamais à une compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il faut saluer ce passage. Mais nous, depuis notre temps d'enfance, on entend parler de corruption. Et j'ai eu la chance quand même de suivre le match Mexico 86. Parce que en 90 déjà, nous, on avait la vidéo. Bon. J'ai eu la chance de suivre Mexico 86. J'étais tout petit. D'accord. Mais on a parlé de la main de Dieu où Diego Maradona a marqué, on ne sait pas comment. C'était à l'époque des Batistuta et des Pulchaga. J'ai eu la chance de suivre ça. Mais bon, ça, quand même, c'est resté dans mon esprit.
Très bien. Ok. Oui, monsieur, comment dirais-je, Abdoulaye Attara, justement, depuis cette décision de la commission d'appel, il y a beaucoup de légendes du football, en tout cas, qui sont prononcées. Même si à ce niveau aussi, en tout cas, les sentiments sont partagés, parce que c'est quand même mitigé. Certains sont pour cette décision, d'autres aussi la contredisent carrément.
Oui. Avant de revenir à ça, je vais juste rectifier mon frère Balou. En 1976, j'ai un joueur guinéen qui a joué même la finale, Ibrahim Assila, en 1976. Il avait 20 ans à l'époque. Il a dit que le Maroc n'a jamais quitté le terrain en 1976. Voilà. Ibrahim Assila, il avait 20 ans à l'époque. Il a joué la finale contre le Maroc. Et d'ailleurs, le but guinéen a été marqué par Chérif Suleiman. Et l'égalisation a été faite par le Faras du Maroc vers la 86.
D'accord. Abdelhadra, avant que vous ne répondiez à cette question rapidement, est-ce que, pratiquement, c'était dans les arrêts de jeu, si le moment où, l'instant T où le joueur sénégalais avait quitté le terrain et que l'arbitre décide de mettre un terme à cette rencontre-là, est-ce qu'on serait arrivé à ce niveau-là aujourd'hui?
C'est pourquoi j'ai dit que l'arbitre est complètement fautif. On n'en serait pas là aujourd'hui.
D'accord.
Deuxième précision par rapport à mon frère Badou, c'est que quand j'ai cité les deux cas, j'ai vu juste montrer que quand une fédération se sent lésée, elle a le droit de faire prévaloir ses droits. Donc, n'offusquons pas le Maroc par rapport à ça. Elle estime, la Fédération marocaine a estimé qu'elle est lésée. J'ai cité le cas du Sénégal par rapport à deux cas, par rapport à la Coupe d'Afrique du 17 et par rapport à l'Afrique du Sud. C'est pour montrer qu'effectivement, quand une fédération se sent lésée, elle a le droit de faire prévaloir le devoir de faire prévaloir ses droits. Maintenant, les gens qui s'expriment aujourd'hui, moi, je pense qu'ils sont plus dans l'émotion que dans le respect des textes. Vous comprenez? L'arbitre a complètement...
Ils sont tous dans l'émotion quand certains sont d'accord avec la décision, d'autres la contredisent.
Voilà, effectivement. Ceux qui la conduisent sont dans l'émotion. Moi, je crois, attendons que ça aille au bout. Le TAS décidera définitivement de qui a été le vainqueur entre le Maroc et le Sénégal. Ça c'est clair. Mais sortons de l'émotion, n'accusons pas le Maroc. La Fédération marocaine s'est sentie lésée et elle a le droit aussi de faire prévaloir ses intérêts. D'accord. Et ça, c'est clair, elle ne va pas se taire par rapport à ça. Mais si l'Afrique avait sifflé la fin à là où l'Afrique a donné le pénalty aux Marocains, si les Sénégalais étaient sortis, les Sénégalais sont sortis effectivement, il n'est resté que Sadio Mané sur le terrain qui est sorti en dernière position. L'Afrique devrait prendre ses responsabilités. Mais j'aurais appris qu'il a subi des pressions de la part de. Il a fait un rapport complémentaire au jury d'appel. Et dans ce deuxième rapport, dans ce rapport complémentaire, il dit qu'il voulait siffler la fin, que malheureusement le président de la commission des arbitres et d'autres officiers de la CAF.
C'est ce que j'ai dit. Hein.
Voilà. Et d'autres officiers de la CAF l'ont intimidé de ne pas siffler.
Parce que le Maroc avait un pénalty.
Voilà, vous comprenez. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas l'accuser aussi à ce niveau. Parce que sa hiérarchie, c'est le président de la commission des arbitres. S'il est intimidé de ne pas siffler la fin, donc forcément il se doit.
Non, et
donc
dans ça le veut cadre dire que tout
simplement. Non, ça veut dire que tout simplement, ceux qui se disent aussi autorités sportives ne connaissent pas aussi les règles. D'accord. Souvent, on inflige aux arbitres des fautes qui ont comme en réalité à ces autorités sportives-là qui ne connaissent pas aussi les règles. Mais ça va trop loin aussi, c'est que le Maroc, enfin, il a 18 prisonniers sénégalais jusqu'à présent, arrêtés pendant cette Coupe d'Afrique, qui sont toujours en prison au Maroc, jugés et condamnés, mais le Maroc aussi refuse de les libérer. Comme ils savent souvent les dessous politiques, quoiqu'ils restent à la loi, je le rejoins. Jusqu'à présent, le Sénégal est vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, jusqu'à ce que l'État se vide complètement les
blessés. Mais est-ce que concrètement, M. Yattara, le football africain a vraiment besoin d'une telle scène?
Pas du tout. Pas du tout. Bon, à un moment donné, je me rappelle du drame de Ezel. Et lorsque la Coupe d'Europe des clubs champions a été jouée entre la Juventus de Turin et Liverpool, ce qu'on appelle le drame du Ezel. Mais je crois que c'est allé au-delà. On ne devrait même pas jouer ce jour-là. Mais il a eu beaucoup d'interventions pour que l'arbitre puisse vraiment jouer. Sinon, en réalité, l'arbitre avait décidé de ne plus jouer cette finale-là. Parce que les supporters de Liverpool et les supporters de la Juventus de Turin avaient complètement saccagé le terrain, avaient complètement fait ce qui ne devrait pas être fait. Donc, mais j'accuse aussi le Sénégal, parce que sortir du terrain sans l'autorisation de l'arbitre est contraire aussi à l'éthique du football. Comprenez, une équipe ne doit pas se permettre de quitter complètement le terrain sans que l'autorisation de l'arbitre ne l'autorise. Si le Sénégal aussi l'a fait, c'est contraire aussi à l'éthique du football.
D'accord.
Mais je prends son prolongement. Mais c'est pour ça qu'ils ont eu des sanctions. C'est pour ça que l'entraîneur aussi a eu des sanctions. Donc la réponse à ce comportement des Sénégalais qui n'est pas un comportement qu'on peut considérer d'éthique, les émotions étaient assez fortes à ce moment-là. C'est facile de parler dans le plateau. Que quand on est dans le feu de l'action, les nerfs sont tendus. Mais ils ont été sanctionnés pour ça. La sanction de ça, ce n'est pas de revenir sur le résultat du match. D'autant plus que le match a continué. Il y a eu des jeux et des jeux. Et le Sénégal a marqué. Donc, l'arbitre, la CAF et autres, les supérieurs, ils sont intervenus pour dire à l'arbitre, si tu proclames le Maroc vainqueur, tu as gâché la fête de cette manière. Donc, t'inquiète, il faut faire revenir. Il faut tirer le pénalty. Le Maroc va marquer, on va proclamer vainqueur et puis tout le monde va rentrer.
Mais comment voyez-vous déjà, M. Edra, la suite des événements?
Je vous ai dit que c'est de la communication, c'est plus de la politique que réellement une question sportive et juridique. Ça fait beaucoup de bruit, etc. Mais le vainqueur de la CAN restera le Sénégal après toutes ces procédures. Je ne pense pas qu'on soit revenu sur des trophées majeurs de cette manière. On a eu à rejouer des matchs, etc. Non. Et puis surtout que quand des décisions relèvent du jeu, du périmètre de l'arbitre, quand c'est pris, on ne revient pas là-dessus. C'est pour ça qu'on ne peut pas revenir sur la main de Diego
Maradona. Mais est-ce que l'hypothèse selon laquelle...
On ne peut pas revenir sur la main de Diego Maradona. Je prends un autre scénario. Okay. Admettons qu'il y ait un autre Diego Maradona. Il fait sa main. Tout le monde a vu. L'arbitre n'a pas vu. La VAR le rappelle. Il regarde. Il regarde et dit « Non, selon moi, il n'y a pas mais. » C'est fini, il n'y a pas mais. Une fois que ce trophée est donné, personne ne peut revenir sur ça.
D'accord.
On peut sanctionner l'arbitre, il peut faire un rapport pour dire « J'ai été flou, je ne voyais pas clair. » Mais personne ne peut revenir sur ça. Oui, Abdallah.
Tout à fait.
C'est tout.
D'accord. Oui, on sait très bien aujourd'hui que toutes les... En tout cas, les yeux sont tournés du côté du TAS, le tribunal arbitrage du soir. Est-ce que ce tribunal peut-être décider que cette finale se rejoue sur un terrain neutre ne pas trop, en tout cas, verser les deux camps?
Pour moi, je vais parler en termes probabilistiques, vu que ce n'est pas moi le TAS. Je pense que c'est très peu probable.
Très peu probable. Oui, Badou Aïdara, est-ce que vous pensez que c'est bien possible, Badou Sidikoba, que cette finale se joue, qu'elle se rejoue sur un terrain neutre entre les deux pays, le Sénégal et le Maroc?
Je ne maîtrise pas les textes comme Abdallah et Badou Aïdara, mais ce morceau est le plus absolu et qu'on réjouit les matchs pour lever tout équivoque. Non, parce que vous savez, la CAN, c'est la plus grande compétition continentale. Vraiment, qu'il y ait une telle contradiction au sein de la CAN, ce n'est pas une bonne chose. Donc, je crois que tout devrait se jouer au Maroc, avant même qu'on ne proclame le Sénégal vainqueur, ou dans les 48 heures qui suivent. Mais attendre 2 mois pour dire que le Sénégal n'est plus détenteur de la Coupe d'Afrique.
C'est la procédure. Vraiment,
je trouve que c'est une honte.
On a quand même entendu une année pour rejouer quand même une autre compétition.
Oui. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on joue la compétition, mais comme ils l'ont dit, c'est le Sénégal qui a encore les trophées. Et nous aussi, nous avons demandé compte par rapport à Yaoundé 72. Aussi, c'est ça. Parce que nous, on nous a volé notre Coupe d'Afrique aussi.
D'accord. Ah. Mais on va finalement réveiller tous les vieux 2 mois ici. Alors oui, monsieur Yattara, rapidement, qu'est-ce qu'on doit retenir rapidement?
Par rapport au TAS, ça va m'étonner très fort que le TAS puisse revenir sur la décision, enfin, le résultat acquis sur le terrain. Ça, il y a trop d'enjeux dans ce truc-là. Mm-hmm. C'est très facile. Le vainqueur, c'est 10 millions. Enfin, l'équipe vaincue, c'est 6 millions. C'est très facile de les rembourser, de les intervenir. Mais il y a tellement d'enjeux par rapport au pari sportif, là.
Mm-hmm. Est-ce que on n'a pas parlé de ça.
Voilà. Est-ce que l'État pourrait prendre la responsabilité de revenir sur cette décision? Maintenant, ceux qui ont déclaré le Maroc vainqueur de la Coupe d'Afrique et qui ont perdu ce pari sportif-là, comment ils vont s'y sortir?
Voilà, c'est autre question. Vous vous rappelez de la décision de Lyon-Moi par rapport à la plainte du Mali. Ils avaient dit que s'ils devaient revenir sur ça, réappliquer, les conséquences seraient tellement énormes, ça allait créer une insécurité juridique telle que... Et voilà, c'est pas grave, quoi. Avançons. Vous avez raison, mais avançons. Donc, bon, c'est ce qui va se passer au final dans ça. Les conséquences seront graves, hein, comme il a dit.
Donc, l'équipe marocaine va mettre du Nyamakou, dans son Nyamakou, dire que les choses vont se poursuivre comment... D'accord, très bien.
Moi, je dirais qu'il faut des textes fluides. D'accord. Il faut faire en sorte que les textes soient respectés. Parce D'accord. que j'ai suivi les 2 spécialistes, mais apparemment, il y a trop de contradictions.
Très bien. Ceci va refermer justement ce tout premier numéro après la célébration de l'Aïd El Fitr. Ce fut un plaisir de vous le présenter. Nous avons toujours une pensée pieuse pour notre confrère et ami Youssoufou Cissoko, directeur de publication du journal L'Alternance. Ce que vous voyez ici en image, son jugement est prévu pour ce lundi 23 mars 2025, en tout 26, pardon, si je ne m'abuse, hein, je pense que je parle sous le contrôle de M. Abdoulaye Traoré, dès ce lundi, donc, ce jugement.
Lundi,
voilà,
lundi,
c'est le 23. Si tout va bien, donc, pensez plus à lui et à sa famille. Voilà, donc, le délibéré, justement, qui est prévu, parce que nous savons très bien que le parquet, quand même, avait requis 5 ans d'emprisonnement ferme et 10 ans de suspension de son journal L'Alternance. Nous implorons, justement, la clémence de la justice afin que Youssouf Cissoko puisse gagner sa famille. S'il vous plaît. Voilà, merci donc à vous de nous avoir suivis. Gros clin d'œil à toute l'équipe qui nous a aidé à réaliser cette émission. À sa tête, Augustin Echoubi, Youssouf Sangaré, Moussa Haïdara, voilà, Fatmata Traoré, Mourlaye Touré. Nous saluons en tout cas l'équipe du Burkina Faso et les étalons justement du Burkina Faso. Une pensée aussi à tous ces Burkinabés qui nous suivent du côté de Bobo Dioulasso, de Kodougou, mais également de Kaya. À très vite sur Djouliba TV News, la première chaîne d'information du Mali. Au revoir.